Bonjour à tous. C'est bien de retrouver un pupitre très familier. Nous l'avons fait pendant plus de 20 ans à travers ce pupitre pour partager la parole de Dieu et surtout la transmettre et transmettre tout le conseil de Dieu. Et c'est une joie ce matin de pouvoir ouvrir ensemble nos Bibles et de regarder dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er. Et voici ce que nous lisons. Commencement dans l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant moi ton messager pour frayer ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Quelle déclaration ! Étonnante. Le commencement de l'Évangile. Et ce commencement débute avec la voix du messager de Dieu qui crie dans le désert. Et le ministère de Jean-Baptiste attirait des foules de gens de toute la région. Et ce récit de Marc nous dit que le message de Jean est le commencement de l'Évangile. Le commencement de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle et non un message de condamnation qui attirait les gens dans le désert. Car Jean s'adressait à un besoin universel dans le cœur de chaque être humain. Et vous savez quel est ce besoin ? C'est le syndrome qui saisit le cœur de tous, et qui consiste de trois éléments qui vont toujours ensemble. Le péché, la culpabilité et la crainte. Alors qu'est-ce le péché ? Je pense que dans le sens le plus simple, le péché n'est rien de plus que l'égocentrisme, ni rien de moins. Nous commettons des péchés parce que nous pensons à nous-mêmes. L'amour de soi, la préoccupation de nos intérêts, en prenant bien soin que personne ne nous devance. Et nous luttons tous avec le péché, l'égocentrisme. Et c'est la malédiction qui plane sur la race humaine. Nous avons été créés par Dieu, pour que chacun puisse être et devenir un canal de sa grâce et toucher les autres avec son amour. Mais dans notre esclavage au péché, quand nous étendons la main, c'est souvent non pas pour donner et servir les autres, mais pour se servir soi-même, pour se servir des autres pour parvenir à nos fins. Et c'est cela la nature égoïste du péché. Et le péché produit la culpabilité. Vous avez connu cela, cette condamnation de soi, ce dégoût de soi qui surgit lorsque nous savons que dans notre égocentrisme, nous avons blessé d'autres. Nous nous sommes blessés nous-mêmes. Nous nous sommes coupés d'une relation et d'une communion avec Dieu. Et la culpabilité détruit notre respect de soi et nous rend mal dans notre peau. Et la culpabilité est toujours accompagnée de la crainte. Parce que la crainte est un manque de confiance en soi. La crainte est le sentiment de ne pas être capable de faire face à la vie. Et facilement, nous tombons dans un état sans force face à des choses que nous ne pouvons pas contrôler, c'est-à-dire nos passions et nos appétits pour l'égocentrisme et le péché, ce qui fait que nous devenons craintifs, sachant que nous méritons le jugement juste de Dieu par rapport au péché. En Éden, ce lieu que Dieu avait préparé pour l'homme et la femme, Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à Dieu pour satisfaire leur passion, leur appétit. Leur péché a produit la culpabilité, la honte. Et dans leur culpabilité, ils sont allés se cacher par crainte. Et c'est le récit de l'humanité depuis ce jour-là. Le syndrome du péché, la culpabilité et la crainte produit une tourmente intérieure sans égale. Il y a dans la vie une chose dont tout homme, toute femme se soucie. Quels sont les vœux que nous prononçons en début d'année souvent? Bonne année et bonne santé. J'aimerais parler de la santé, mais pas physique tant que spirituelle. Et c'est vrai que les gens se soucient de deux choses. Être en bonne santé ou être en mauvaise santé, malade. Si on est en bonne santé, alors rien à craindre. Mais si on est en mauvaise santé, malade, il y a deux choses. Deux choses dont on doit se soucier. Si on va guérir, ou bien si la santé va se détériorer. Si on retrouve la santé, rien à craindre. Par contre, si la santé s'empire, il y a deux choses. Si on va survivre ou si on va mourir. Si on survit, pas de souci, rien à craindre. Si on meurt, il y a deux choses. Si on va au ciel ou si on va en enfer. Si on va au ciel, alors rien à craindre. Par contre, si on va en enfer, on a tout à craindre. On a tout perdu. À travers ce récit de Marc, une rumeur se répandait partout à Jérusalem et en Judée. Ce message prêché dans le désert. Un message de délivrance du péché, une délivrance de la culpabilité et de la crainte. Et donc les gens quittaient leur demeure pour se rendre dans un lieu désertique près du Jourdain. Tous partaient à la recherche de cet homme étrange mais porteur d'un message tout à fait nouveau, tout à fait merveilleux. Et la venue de Jean, c'est le signe que Dieu a envoyé afin que l'espérance jaillisse au milieu du désert, du désespoir, de la vie sans espérance. Il parut, il baptisait dans le désert, et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et quel message étonnant, quel message surprenant, un peu comme si on entendait un coup de tonnerre dans un ciel complètement dégagé. L'annonce, c'est que les hommes peuvent venir à Dieu par le moyen de la repentance. Et le résultat de la repentance, c'est le pardon de leurs péchés. La plus grande bénédiction que nous pouvons vivre, c'est celle d'être pardonné de nos péchés. Et le fondement du pardon de Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. La croix permet à Dieu de pardonner parce qu'elle répond à sa justice, à lui. Mais le fondement sur lequel nous sommes appelés à pardonner les autres est différent. Il repose sur le fait que nous pardonnons aux autres parce que nous-mêmes avons été pardonnés. Cependant, le pardon n'est complet qu'à partir du moment que l'offenseur ait un changement de cœur et d'attitude. Il ne suffit pas que juste l'offensé offre le pardon doit être reçu, accepté par l'offenseur, qui lui doit reconnaître sa culpabilité et être pris de remords pour le mal commis. Et c'est de cette repentance-là dont Jean parlait. Il prêchait la repentance parce que c'est la condition pour rencontrer Dieu et être au bénéfice de son pardon. Ce qui est important aussi à noter, comme ce texte souligne, Jean le dit lui-même, « Mon ministère est incomplet. » Voici son message. Il prêchait et il dit, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. » Verset 7. « Et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Jean est tout à fait humble et honnête, et il dit aux foules venues le voir, en somme, « Ne regardez pas à moi pour des réponses au-delà de ce que je vous ai déjà dit concernant la repentance. Celui qui vient après moi vous éclairera parce qu'il est plus grand que moi, à tel point que moi je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses chaussures, de ses sandales. Et le signe de sa grandeur, c'est que bien que moi je puisse vous baptiser avec un baptême de purification extérieure, lui, il vous purifiera intérieurement avec l'Esprit Saint. » Donc Jean déclare, je peux vous amener à Dieu, mais je ne peux pas vous amener dans l'expérience de la vie spirituelle. Lorsque le Messie viendra, lui vous baptisera d'Esprit Saint afin que vous puissiez vivre jour après jour une vie transformée par la puissance de Dieu. Donc Jean amenait les hommes à Christ par le seul chemin possible, celui de la repentance. Admettre le péché, confesser sa culpabilité. Et c'est à ce point-là que Dieu les rencontre, Dieu les purifie, Dieu pardonne. Et le pardon de Dieu, le baptême de son Saint-Esprit, sont offerts par grâce à tous ceux qui désirent commencer au commencement, par la repentance. Un deuxième texte, nous avons dans Matthieu 3, verset 11, et c'est Jean à nouveau, dans le récit de l'Évangile, qui dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Et ces versets sont très importants parce qu'ils marquent une différence qui existe entre le baptême symbolique par l'eau, que nous venons de voir, et le véritable baptême par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on évoque le baptême d'eau, nous devons nous rappeler qu'il s'agit bien plus qu'un simple acte cérémonial auquel on participe. L'acte de baptême d'eau, c'est un symbole qui représente une autre réalité, autre chose. Et c'est cette autre chose qui constitue la signification véritable du baptême, la réalité derrière le geste. Et dans ce récit biblique, Jean lit ensemble le symbole et la réalité derrière le symbole. Il déclare en fait, « Je vous baptise d'eau comme signe de votre repentance du péché, comme un signe de votre confession de vos péchés. » Mais cela ne complète pas la signification du baptême. Il y a un autre qui vient après moi, qui est plus puissant que moi, en fait si grand que je ne suis rien. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et de feu. C'est cette dernière phrase du verset 11 qui en a troublé plus d'un. Que signifie cette parole prononcée par Jean ? On comprend ce que l'Esprit de Dieu signifie, mais un peu perplexe quant à ce qu'il, la référence au feu. Pourtant, le texte ici rend tout parfaitement clair par les paroles qui suivent au verset 12. Il a son vent à la main. Savez-vous ce que c'est qu'un vent ? Une pelle à vanner, voilà. Une sorte de panier à fond plein, muni de deux anses. Pour ceux qui sont citadins, peut-être que vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, ces pelles à vanner lancent le grain en l'air afin que le vent emporte la paille, la balle. Et Jean déclare tout simplement que Christ est le moissonneur qui vient dans le monde avec une pelle à vanner avec laquelle il va séparer le bon grain et la balle. Il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Voilà le feu du jugement dont il est question. Et de ce fait, Jean déclare que lorsque Jésus-Christ vient, il vient pour baptiser chacun, soit d'Esprit Saint, soit de feu. Soit l'un, soit l'autre. Et ce qui est rendu clair ici, c'est qu'il s'agit de deux sortes de baptêmes. Le baptême de l'Esprit Saint, qui est celui de la nouvelle naissance spirituelle, qui conduit à une vie avec Christ. Puis il y a le baptême de feu, qui est le jugement de Dieu, qui conduit à la perdition, à l'enfer. Le baptême d'Esprit Saint, c'est pour ceux qui se repentent, qui croient en Christ, en son œuvre de rédemption. Le baptême de feu est pour les incrédules, qui refusent de se repentir devant Dieu et qui rejettent Christ et son œuvre. Le feu est le symbole du jugement divin. Partout où vous lisez dans la parole de Dieu. Et Jean déclare en somme, écoutez, vous avez un choix à faire entre deux réalités. Celui qui vient va traiter avec chaque être humain. Tous, sans exception. Moi, je ne traite qu'avec quelques-uns d'entre vous. Mais celui qui vient après moi connaît et sonde le cœur de tous les hommes. Lui, il jugera selon la disposition intérieure de chacun. Et il vous baptisera soit d'Esprit Saint, soit de feu. Donc le plaidoyer est tout simple. Et c'est le message de l'Évangile pour tous les hommes que nous sommes amenés à répandre autour de nous. Nous qui sommes missionnés par le Seigneur pour répandre cette bonne nouvelle. Pour tous les hommes, ceux d'antan et ceux d'aujourd'hui, saisissez l'opportunité qui se présente à vous. Et je lance cet appel aussi aujourd'hui. Si vous ne voulez pas être baptisé de feu, tomber sous le jugement de Dieu, alors confessez vos péchés, Repentez-vous et soyez baptisés d'eau, qui est le signe, le symbole de votre repentance, de votre naissance spirituelle. Afin que lorsque le Seigneur vient, votre baptême spirituel soit l'onction de la grâce de l'Esprit qui ira accomplir et rend parfait le plan rédempteur de Dieu pour chacun. Et ceci explique pourquoi l'acte physique de l'immersion dans l'eau est lié à la réalité du baptême de l'Esprit Saint. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, nous découvrons qu'après la résurrection de Jésus, au terme de son ministère sur terre, lui-même confirme ce lien. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il leur dit « Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Et quelques jours plus tard, cette promesse est accomplie. Le Saint-Esprit est répandu sur tous les disciples et le corps de Christ, l'Église spirituelle, a été constitué. C'est la raison pour le baptême du Saint-Esprit. C'est pour nous faire entrer, nous plonger, nous immerger dans cette entité spirituelle qu'est le corps de Christ, son Église. Et c'est lui qui nous introduit dans ce corps. L'Église de Christ n'est pas une institution religieuse, mais un corps spirituel. Mais ce corps spirituel est une réalité visible aussi. À travers le Nouveau Testament, quand vous lisez, il est question du corps de Christ, l'instrument à travers lequel le Seigneur veut accomplir son œuvre présentement jusqu'à son retour en gloire. Un texte dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 déclare ceci. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et c'est bien cette réalité-là que le baptême d'eau symbolise. Vous savez, le symbole n'accomplit rien pour nous. Le baptême d'eau ne sauve pas. Il ne confère aucune grâce ou bénédiction en dehors du fait d'être obéissant au commandement du Seigneur. Le baptême d'eau a donc pour fonction de focaliser, vous l'avez entendu dans les deux témoignages qui ont été donnés aujourd'hui, de focaliser notre attention sur notre foi et nous aide à comprendre, de saisir et comprendre ce qu'implique la nouvelle naissance spirituelle. Qu'est-ce que c'est que marcher en nouveauté de vie? Et Daniel l'a dit, étant coupé de son ancienne manière de vivre pour vraiment devenir un en Christ. Romains 6, 4 déclare « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Et cela décrit pour nous le baptême spirituel, le baptême d'Esprit Saint, et donne la signification à l'acte du baptême d'eau. Et c'est le témoignage public que nous avons par un engagement de cœur personnel, intérieur, fait le pas du renoncement à soi, à notre ancienne vie centrée sur elle-même, vie de péché égocentrique, en réponse à l'appel du Seigneur Jésus-Christ, étant désormais unis à lui, afin que nous marchions, afin que nous le suivions dans la plénitude de la force qu'il nous donne dans cette vie nouvelle avec lui. Et donc, passer par les eaux du baptême, c'est l'expression, c'est une déclaration merveilleuse que notre vie est en Christ, étant mort à nous-mêmes, à notre ancienne vie, ayant reçu la vie nouvelle spirituelle pour marcher en nouveauté de vie, étant abreuvé par l'Esprit de Dieu, purifié, immergé dans l'Esprit, pour former ensemble un seul corps spirituel pour Christ et pour sa gloire. Alors je termine avec une question. Qu'en est-il de toi? Comprends-tu que Dieu t'aime? Qu'il désire t'accorder la vie spirituelle, éternelle? Beaucoup ici peuvent le réciter par cœur, mais je vais le dire quand même dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et là, vous pouvez mettre votre nom. À la place du monde, vous mettez votre nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà. Voilà. Écarté du jugement de feu, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alors, reconnais-tu ton état de péché et de désobéissance à la volonté de Dieu, qui est une entrave à une relation véritable d'amour avec le Créateur? Dites-lui simplement aujourd'hui, dans votre cœur, au plus profond de vous-même, Seigneur Jésus, j'ai compris que tu m'aimes et je prête foi à ta parole. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui. Je me repens de mon péché et je me confie en toi pour mon salut. Sauve-moi. Purifie mon cœur. Baptise-moi d'Esprit Saint. Et pour ceux qui sont déjà baptisés d'Esprit Saint, nés de nouveau, sauvés par grâce, sauvés du baptême de feu, mis à part pour le Seigneur, j'ai une autre question. Est-il maître de ta vie? Est-il Seigneur de ta vie? Vous me l'avez entendu dire maintes et maintes fois pendant plus de 25 ans. Soit Jésus est Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Ton engagement à Christ s'est-il concrétisé par l'acte d'obéissance qu'est le baptême d'eau? Sinon, qu'est-ce que tu attends pour passer à l'acte? Si oui, qu'en est-il de ta fidélité dans ta marche en nouveauté de vie, de ton obéissance à sa volonté? Dites simplement au Seigneur aujourd'hui, purifie mon cœur. Je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à marcher à ta suite. Quelle que soit votre situation de cœur, si vous voulez changer de direction, si vous voulez vous ouvrir votre vie à Christ, eh bien après ce moment de culte, je vous invite à aller voir Paul, Béa, Jonathan, les autres anciens qui sont là, vers moi-même si vous voulez. Et nous aurons un grand plaisir de prier avec vous. Qu'en est-il de toi? De quel baptême es-tu baptisé? Prions. Merci Seigneur pour la clarté de ta parole, pour la simplicité de l'Évangile. Et Seigneur, nous n'avons pas à tout saisir, tout comprendre, nous avons simplement à ouvrir notre vie avec confiance, avec foi, que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, de ce qu'en toi est la vie et en toi seul. Merci encore Seigneur pour le témoignage de Daniel et le témoignage de Dorian aujourd'hui. Que tu utilises, Seigneur, ce moment, par ton esprit, d'interpeller les cœurs, afin que chacun se tourne vers toi, te glorifie dans leur vie et accomplisse, Seigneur, ta volonté pour eux. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.